Je vais à mon tour vous présenter les intervenants de cette table ronde. Donc, nous avons deux professeurs de fondamentalistes. Vassilia Margaria, qui est professeure de fondamentaliste à Nice en collège. Elle est titulaire d'un master DISTIC, dispositif, c'est le mot-clé, le fil conducteur, je crois, du congrès. Dispositif socio-technique de l'information et de la communication, donc master piloté par Gabriel Galizot. Elle a été membre du bureau de la FATBEN Versailles en 2006 et elle est toujours à la FATBEN à Nice où elle se trouve maintenant, où elle travaille. Elle est aussi co-responsable du groupe national enseignant de documentaliste au SNES. Donc elle a été au niveau national et puis maintenant au niveau académique à Nice, dans l'Académie de Nice. Noël Huguin, professeur tout court, sans eux, documentaliste au lycée Liquestre à Quimper. Il a travaillé à l'UCO à la mise en place d'un portfolio C2I2E, donc à l'UCO d'Angers en 2011-2013. Il est chargé de cours culture numérique à l'Université de Rennes 2, membre du GRCDI aussi. Et il travaille sur les systèmes d'annotation numérique et la formation des élèves à la gestion de leur environnement d'apprentissage personnel et collaboratif. Voilà pour nos intervenantes. Donc notre table ronde, on l'a intitulée Recherche et évaluation de l'information, donc de l'interrogation d'un outil de recherche au document de collecte, quel parcours de formation. On va essayer de déboucher sur cette perspective du parcours de formation. Donc on l'a conçu un petit peu en trois temps, donc en table ronde dialoguée, donc trois temps dialogués entre nos deux intervenants. Une première partie sur exprimer son besoin d'information, le besoin d'information. Deuxième temps, utiliser des outils de recherche, compréhension des outils et des systèmes techniques. Et troisième temps, donc sur les contenus et la formation à mettre en œuvre, parcours, contenu et parcours de formation. Je laisse la parole, je crois que c'est Margaria qui va commencer.
Merci Vanna. Je dois vous avouer en préambule que je suis un petit peu émue de me retrouver à cette place, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'assister à des congrès de la FATBEN, mais de l'autre côté de la barrière. Voilà, mais je vois des visages amis, donc ça devrait bien se passer. Une petite remarque de forme sur le genre utilisé quand je parle des professeurs documentalistes. Vous verrez qu'à chaque fois, le genre est au féminin. Puisque partant d'un principe de la réalité qui est que plus de 80% de la profession est féminine, j'ai pris le parti de parler des professeurs documentalistes. J'espère que nos collègues masculins ne m'en voudront pas. Voilà, donc je suis professeure documentaliste depuis une quinzaine d'années, ce qui m'a permis de faire un constat que vous pouvez voir sur cette première diapo, à savoir que pour les élèves, chercher des mots-clés plus précis lorsqu'ils font une recherche d'information ou élargir à des termes équivalents, voire généraux, en cas d'échec, reste difficile pour eux, car c'est un véritable travail intellectuel qui demande des connaissances sur la langue et le vocabulaire et des capacités d'abstraction et de catégorisation que n'ont pas forcément des élèves de lycée, encore moins de collège. Nos lectures d'auteurs issus du monde des sciences de l'information, mais aussi de la bibliothéconomie, nous ont permis d'étayer ce premier constat, puisqu'on se rend compte que les enquêtes menées depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire ou de l'université, font tous ce constat de difficulté dans la phase du choix des mots-clés pour la formulation des requêtes. Malgré la banalisation de ce qu'on appelle le searching dans la recherche en ligne, puisqu'au début du web, c'était davantage la navigation qui était utilisée comme mode de recherche. Aujourd'hui, c'est davantage le searching, mais malgré tout, on ne voit pas d'amélioration de cette compétence pour les élèves. Donc, je vous cite en particulier les travaux de Nicole Roubaix et André Tricot qui ont travaillé sur cette question. Donc de ce constat et de ces lectures est parti l'idée de mener une recherche donc dans le cadre du Master 2 Recherche. Je précise juste, le Master 2 était dirigé par Madame Bertini et mon directeur de recherche était Gabriel Galozo. Voilà, je me suis bien exprimée tout à l'heure. Voilà. Alors, l'objet de l'étude, donc c'était le fil conducteur, comment améliorer l'expression du besoin d'information, donc avec deux axes. Le premier, davantage tourné du côté de l'analyse des pratiques professionnelles des professeurs documentalistes, et le second, du côté de l'observation de l'activité des élèves en activité de recherche d'information. Alors, je vais faire un petit point assez rapide sur la méthodologie. Vous apprécierez l'animation, j'ai essayé de concurrencer Olivier Leduff. Alors, donc il y avait deux, au niveau de la méthodologie, une première observation participante, à savoir que le terrain utilisé était constitué de mon collège d'exercice pour des questions pratiques, donc collège situé en milieu urbain avec un public favorisé scolairement et socialement, donc des élèves d'une classe de 3e, chacun ayant utilisé un outil différent, une moitié de la classe a utilisé 3QCP et une autre moitié le Thésaurus. Donc les tâches, c'était des tâches prescrites dans le cadre d'une collaboration avec professeurs de SVT et de sciences physiques, la consigne étant d'interroger le sujet, lancer une requête dans BCDI et relever les références pertinentes. Voilà, donc un observateur extérieur et puis moi-même en tant que en position d'observation participante. S'en sont suivis des entretiens semi-directifs, donc à la fois des entretiens individuels et un entretien collectif, avec des objectifs qui étaient de sonder ce que les élèves avaient retenu, de recouper leur discours avec les éléments perçus lors de l'observation, de confronter leurs pratiques et d'ouvrir le dialogue entre pairs pour cerner les choix, les freins, etc. Dernier aspect, l'enquête par questionnaire. Alors je vais faire un petit peu de promotion et d'autopromotion. Vous avez tous eu dans votre mallette ce numéro d'InterCDI dans lequel je présente un article relatant les résultats de ce questionnaire. Voilà, donc c'était une enquête qui avait pour objectif d'interroger les pratiques des professeurs documentalistes, à la fois leurs pratiques de gestion documentaire et pédagogique, en les mettant en regard avec l'évolution des outils de recherche et de leur mode d'interrogation.
Bien, donc on va croiser nos regards. Donc, je vais commencer à présenter aussi l'approche qui était la mienne. Donc, je m'appelle Noël Bien, effectivement, je suis un documentaliste en lycée. Et je me suis emparé de cette notion qui est apparue, qui a fait fleurir sur la profession, mon offre document de collecte. Et je vais donc centrer mon propos sur cette notion en recadrant dans le contexte de la recherche d'information qui est maintenant dans le numérique, qui prélève beaucoup de traces, donc qui a abouti à des systèmes de collecte. Donc, par rapport au besoin d'information, je vais le mettre en tension avec le modèle qui est celui de la recherche par étapes. Et j'appelle donc ça, le besoin d'information, une notion problématique, parce que avec l'émergence du web et la prédominance de recherche en ligne, il y a plusieurs évolutions de fond qui se sont passées qui amènent à se questionner sur à la fois les pratiques sociales, les pratiques des élèves, le fait que ce soit des ressources non didactisées qu'on trouve en ligne, alors qu'avant on avait dans les catalogues des ressources filtrées. Puis d'autre part, le fait que dans cet espace informationnel qu'est le web, tout se passe sur la même interface, sur le même écran. Donc il y a une sorte de compression de l'espace et puis la temporalité aussi. Donc si bien que ces paramètres-là ont changé la donne et nous ont amené à questionner le modèle des étapes, et notamment à partir des travaux de la recherche. Alors, il y a eu un premier travail en 2006 que j'avais lu et que j'ai trouvé très intéressant, c'était Pascal Duplessis qui avait essayé qui l'a très bien fait d'ailleurs, de représenter un modèle conceptuel à partir de Tricot et Rouet. Donc, qu'est-ce qui change quand cette interface confond tout, la recherche, la lecture, le tri et puis la sélection. Et donc, le modèle de, qui s'est bien repris, le modèle de tricot et web, EST, évaluation, sélection, traitement. Donc, qui sont trois étapes, la mobilisation de ressources, mobilisation du système documentaire, donc requête, moteur, sélection d'informations dans la liste ou dans les résultats, et traitement d'informations, donc collecte. En mettant au centre quelque chose qui est fondamental, c'est le besoin d'information. Disons qu'il n'est pas du même ordre que le besoin d'information. C'est quelque chose qui est comme une stratégie un peu implicite dans le cas des usages sur le web, hein, ce searching, et qui, malgré tout, a fait l'objet d'un travail de Nicole Boulay. Là aussi, sa thèse, je crois que c'est 2008, hein, sur les pratiques, et notamment l'article sur les pratiques de copier-coller des élèves, où il avait analysé les pratiques de recherche d'une vingtaine de lycéens, et comment, sans consigne, sans forcément que ceci soit prescrit, ils établissaient un document de collecte, et j'ouvrais spontanément un traitement de texte, et ils prélevaient de l'information. Donc le document de collecte vient de cette redéfinition du besoin d'information, comme s'il était là en appui de la démarche de recherche d'information, comme si c'était quelque chose qui servait à la fois à réguler l'information, estimer quand elle est le texte, enfin, la recherche est clôturée, et quelque chose aussi qui va permettre l'exploitation, mais comme une nouvelle pratique qui émerge. Et donc elle a appelé ça document de collecte, sans que ce concept soit mieux précisé, c'est simplement un constat que les élèves ouvrent spontanément un document de collecte qui semble à la fois piloter l'activité, donc qui relève de la stratégie peut-être pas formelle, mais en tout cas c'est une stratégie, et qui permet aussi de clôturer donc, la phase de recherche. Voilà un peu le cadre qui était au départ de mes constats, et aussi le fait que en TPE notamment, tout ce qui était approche méthodologique, qui était la nôtre, basée sur le modèle du catalogue avec sa temporalité, on pose d'abord les bons clés, on va vers l'outil, et puis on trouve la ressource, on va vers elle, donc cette espèce de cheminement qu'on avait dans le centre de ressources, cheminement corporel aussi, cette temporalité aussi des apprentissages avec des fiches outils en début de séance, Pascal Duplessis l'a proposé ce matin, c'est tout cette. Tout capital, hein, le fiche qu'on a sur ces aspects méthodologiques, et bien finalement on était assez déçus du résultat. Donc on s'est dit qu'il faut peut-être changer d'approche parce que la prescription de comment analyser un bon site, comment poser les mots-clés, dans le cas du web en tout cas, dans les participations jury, vous voyez qu'on a plutôt des listes d'adresses sans évaluation des sources, et que comme si dans l'intervalle, ce qui s'était passé entre nos interventions et le résultat avait eu peu d'effet. Voilà donc. C'est la raison pour laquelle on s'est dit peut-être qu'il faut travailler mieux ce qui se passe au cœur de ce dispositif carbonisé Pascal Duplessis, hein, avec au départ un besoin initial, puis un besoin qui s'affine, et que peut-être que cette constat que fait Nicole Boubé, nous l'observons aussi, spontanément dans les pratiques de copier-coller. Elle recommandait à Nicole Boubé de s'appuyer sur ces pratiques de copier-coller sans forcément les didactiser, mais en tout cas, se dire là, il y a un espace, une nouvelle. De nouvelles pratiques qui émergent aussi chez nos élèves. Et peut-être que c'est là qu'on va installer à la fois notre dispositif de formation et nos actions pédagogiques.
Alors, on va voir que mon approche, quelque part, s'inscrit un petit peu en contre-champ de celle de Noël, puisque, comme il vient de vous le dire, il a essayé de s'appuyer sur les pratiques des élèves, là où finalement, mon étude porte sur des formations documentaires qui, quelque part, vont à contre-courant des pratiques des élèves. Donc, voilà, on va peut-être se demander si, finalement, ces pratiques ont ou non une légitimité du point de vue de la didactique et de la pédagogie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque, voilà, j'ai pu constater que la formation des élèves à l'utilisation du logiciel documentaire reste parmi les plus couramment dispensés par les professeurs documentalistes, alors même que les élèves, eux, dans leur pratique, tentent à délaisser ces outils documentaires classiques. Alors, pour analyser ce point-là, je me suis donc J'ai donc mené le questionnaire que je vous ai présenté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en ressort? Bon, d'une part, la position hégémonique de BCDI, hein, ça c'est pas une surprise. D'autre part, un fort attachement des professeurs documentalistes à cet outil, tant du point de vue de l'outil de travail que de l'outil de formation. Donc 92% des collègues à interroger pensent que le rôle du professeur documentaliste est de former les élèves à la recherche d'informations sur ce logiciel, ce qui rejoint en fait les chiffres avancés en 98 par Céline Duarte-Chola dans sa thèse. Et donc on se rend compte que finalement en 15 ans, les outils de recherche, les pratiques de recherche ont beaucoup évolué, mais cet attachement reste très fort. Alors pourquoi? Eh bien, dans l'enquête, je me suis aperçue que les collègues mettent en avant le fait que c'est un outil qui permet d'accéder à des ressources de qualité, puisque sélectionné a priori par les professionnels pour répondre aux besoins des élèves. Et donc, là, on peut se demander s'il ne faut pas justement repenser cet outil dans le cadre plus général de l'espace informationnel qui permet d'acquérir des stratégies de recherche mieux adaptées. Ensuite, donc ça c'était les résultats par rapport au questionnaire vis-à-vis des professeurs documentalistes. Résultats des entretiens menés avec les élèves. Ce qu'il en est ressorti, c'est que BCDI est envisagé comme un outil plus précis que Google. Je vais citer une élève, donc Emma, qui nous dit qu'il y aura beaucoup plus de résultats qui n'auront aucun rapport avec mon sujet dans Google. Et donc BCDI est considéré comme un outil bien adapté aux recherches dans le cadre scolaire. Voilà, donc Google, ça va être plus vague, un peu de tout que BCDI, c'est plus pour le scolaire. Il y a plus d'informations sur ce que je dois chercher, nous dit Emma. Deuxième constat, c'est que l'évolution des outils documentaires tend à minimiser la place des langages documentaires. Pardon. Donc en fait, on passe d'une logique d'apprentissage avec BCDI à une logique d'usage avec ICIDOC, donc, qui a été déployé depuis 2010. Alors, quel est l'argument de l'éditeur d'ICIDOC? Eh bien, il s'appuie sur le fait que donc, c'est un outil qui correspond à une certaine spontanéité. Hein, c'est la spontanéité que les élèves expérimentent déjà avec l'interface de Google. Dans ce cadre-là, la recherche par thésaurus n'a plus sa place, même si les ressources sont toujours indexées avec Mobis. Donc il n'y a plus qu'un champ sujet qui fusionne en fait les descripteurs, les mots-clés et les employés pour, mais plus aucune possibilité de faire des requêtes sur le champ descripteur. Voilà, donc il y a une volonté clairement affichée de s'adapter aux usages des élèves. Moi j'y vois derrière ça une politique commerciale, donc, puisque là c'est un outil qui est revendiqué comme un outil de consultation autonome par l'usager. C'est un outil qui se veut plus sexy, entre guillemets, hein, correspondant aux usages des élèves. Et à savoir que ICIDOC est apparu en 2010, BCDI est passé en formule d'abonnement en 2006, donc 4 ans auparavant. Avant, c'était un achat unique, donc on achetait une fois le logiciel et puis on pouvait le garder des années. Formule d'abonnement, ça veut dire que chaque année, on doit se réabonner. Donc, peut-être cette volonté de développer un outil plus sexy, comme je disais, pour que les collègues se réabonnent chaque année. Alors, on vient à la question, quelles sont les conséquences dans notre pratique professionnelle? Est-ce que cette évolution a fait débat ou pas? Donc, quand on analyse un petit peu les résultats du questionnaire, on s'aperçoit qu'en fait, cette disparition de la recherche par thésaurus s'est faite globalement dans l'indifférence, puisque 57% des collègues la déclarent sans importance ou ne se prononcent pas, considèrent que c'est un mode de recherche inadapté qui ne correspond pas aux usages, alors que pourtant, ils forment leurs élèves à l'interrogation sur le logiciel documentaire, qui ne correspond pas non plus au sujet des élèves, donc peut-être un petit peu contradictoire. Il y en a un tiers qui juge quand même cette évolution négative, mais avec un sentiment d'imposition par le haut. J'ai également identifié deux paradoxes, donc le fait que cette recherche par thésaurus disparaisse, alors que d'un autre côté, les pratiques d'annexion par Thésaurus, elles, perdurent. Très largement, puisque 90% des collègues déclarent indexés avec un Thésaurus, et presque 100% en lycée général et technologique. Deuxième paradoxe, la permanence des pratiques d'annexation par Thésaurus, alors qu'on forme de moins en moins les utilisateurs. Donc on sait que pour que l'interrogation d'un fonds soit optimale, il faut à la fois qu'il y ait une qualité dans l'analyse documentaire et une maîtrise de l'interrogation par les utilisateurs, et donc une formation nécessaire. Voilà, donc d'où le sentiment de quelques collègues qui s'interrogent sur l'utilité de leurs actions documentaires et pédagogiques.
Alors, on va voir que je pense le tout par son des nouveaux usages, et je vais maintenant interroger deux notions, notamment enfin, l'indexation et la circulation des objets documentaires. Parce que je pense qu'avant de pouvoir approfondir la notion de document collecte, en quoi c'est important de garder les traces, je vais vous demander pourquoi tout d'un coup on a une profusion d'objets documentaires et qu'est-ce que c'est que cette modification de fond qu'a apporté le web. Alors je reprends une citation de Bruno Bachimon, qui est un chercheur en sciences d'information de communication. Et je crois qu'il a fait sa thèse avec Yves Jeannin, mais je ne suis pas sûr. Donc il dit que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des mouvements d'indexation, circulation, reprise, qu'aujourd'hui, on a une indexabilité de tout sur le web. Tout chaque segment, chaque bout de texte, chaque image devient un segment qui peut être indexé, c'est-à-dire, et puis ensuite circuler de manière autonome. Et cette indexation généralisée de segments permet leur reprise dans de nouveaux contextes. Et donc on a sur le web une métaphore du copier-coller qui sert à la fois à désigner nos pratiques, ce que faisait Nicole Loubé en parlant de ses lycéens qui ouvraient spontanément un document de collecte, mais surtout Louise Berzo qui dit que le web finalement c'est une machine, ce sont des machines qui entre elles écrivent entre elles, qui extraient des bouts, et voilà, on a donc ces redocumentarisations, c'est ce phénomène de remix, hein, c'est permanent, et qui engendre aussi une nouvelle façon de lire, écrire. Parce qu'on peut très bien s'approprier des images qui viennent de sources qu'on ne connaît pas ou de contextes qu'on n'a même pas approfondi. Et il me semblait que c'est important d'approfondir cette notion d'indexation, d'indexabilité. C'est aussi Alain Lou, qui est donc un spécialiste de la translittératie, dans un article publié sur le site INA, un dossier passionnant d'ailleurs, où on trouve aussi Alexandre Serre et Divina Fromex. Et je pense qu'il faut lu ces dossiers parce que vraiment c'est très très intéressant sur ce que ça nous dit sur cette culture du bitage, culture du remix aussi, qui est caractéristique de ces nouvelles façons de lire et circuler, caractéristique aussi de l'environnement qui est proposé à nos élèves, ce que disait tout à l'heure François Champon. C'est vrai que les élèves, quand on les voit spontanément à l'heure précis, ils sont dans cet environnement-là, ils peuvent sur un banc, c'est-à-dire sur une espèce de map de cartes, déposer des images, des textes. Les images, elles viennent de Google Images, sans que l'on sache forcément qu'on fait appel à ce moteur. Vous pouvez insérer Picasso, la palette bleue, et bien vous avez instantanément des images qui s'affichent, mais vous ne savez pas d'où elles proviennent. Hein. Donc finalement, on est aussi dans cet environnement où des codeurs définissent pour nous des espaces où on va s'approprier des objets qui sont redocumentarisés, qui circulent. Et voilà, quand vous demandez une recherche à faire, aussi sur, on observe beaucoup l'usage. Une sorte d'emprise de Google Images, les élèves l'apprécient beaucoup. Et c'est intéressant d'observer comment on a des. Par exemple, Clélise Wood qui apparaît comme dans la proximité de 2014, donc il y a des effets de télescopage, mais qui vont peut-être pas faire sens pour les élèves tout de suite. Et on va pouvoir questionner ces pratiques à partir de là. Donc, à la fois des environnements comme prédit, des interfaces, nouvelles connexions, nouvelles anthologies comme Google Images, et puis aussi des pratiques éditoriales. Hein. Vous trouvez par exemple des dessins de presse sur le site d'un quotidien qui sont décontextualisés, sortis du titre de l'article et du chapeau. Donc vous pouvez essayer de les comprendre. C'est impossible de pouvoir lire ces documents sans le contexte. Mais pourtant, les pratiques sont là de faire circuler. Alors je me suis dit que c'était important de s'interroger sur comment ça circule, parce que ça permet un peu de comprendre l'environnement naturel, je fais référence à ce que disait Olivier Dove tout à l'heure, c'est naturalisé, l'impression que c'est le bar dans lequel il va. Il faut maintenant peut-être déconstruire ce bar médiatique pour voir qu'est-ce que c'est que collecter, qu'est-ce que c'est que recréer, remixer. Et donc je proposais ici, c'était ce que j'avais publié sur le site de l'IFE, la conférence 2013 sur l'éducation aux médias, un article sur une proposition plutôt de formation des élèves à comment circule un article de presse aujourd'hui. Je montre que nous sommes habitués, nous, à voir l'article de presse dans un site ou dans un journal, dans une unité documentaire plus basse, dans un contexte. Et finalement, quand on regarde comment ça circule, c'est qu'il y a des agrégateurs de médias, c'est-à-dire que les manières de faire vivre un article, c'est l'article, le journaliste va écrire son titre et le référencer en temps réel par des agrégateurs de médias, et aussi pour qu'il y ait du buzz sur les réseaux sociaux, pour que l'article soit recommandé. Donc, en travaillant ces notions avec les élèves d'indexation autour de Semaine de la Presse, eh bien, on invite un journaliste à dire pourquoi il vous présente sur Twitter, mais pourquoi est-ce que vous faites circuler comme ça, pourquoi est-ce que vous mettez des hyperliens. Voilà, donc je pense qu'il y a derrière cette notion de collègue, en surplomb plutôt, cette culture de l'indexation. C'est aussi ce que disait Olivier Lebeuf tout à l'heure, formulé à l'indexation. Je crois que c'est vraiment un arrière-plan très important, que comment ça circule. Voilà. Et du coup, on va peut-être se demander pourquoi les faire collecter et puis quel savoir mettre derrière ces opérations de collecte dans leur recherche d'information. Et je vais aussi tenter de cette manière de faire le lien. Là, je montre un exemple parce que c'est un clin d'œil à Vassilia, mais aller par exemple d'un opaque, celui de Europresse, qui est aussi publicité involontaire aux éditeurs présents sur le stand, où on peut affiner les requêtes par mots du titre, c'est aussi comprendre que l'interface de Google mode avancé permet d'aller chercher des mots du titre. Et ce faisant, on reconstruit la notion d'index titre. Voilà. Parce que ça aussi, peut-être que là, même ça a disparu de représentation des élèves sur comment fonctionne l'outil. Et donc, peut-être pour retourner après vers l'opaque.
Alors, on en vient au cœur de notre exposé, j'espère qu'on ne vous a pas complètement perdu dans notre jeu de ping-pong. Alors, les savoirs nécessaires pour la maîtrise de la recherche de l'information. Donc, comme je l'ai dit en préambule, les didacticiens de l'information préconisent d'élargir les formations documentaires aux démarches intellectuelles et aux connaissances qui sous-tendent ces techniques. Donc je pense notamment à notre maître à penser à tous, qui est Jean-Louis Charbonnier, qu'on ne présente plus, ex-membre du Bureau national de la FEMPEN et responsable national aussi au niveau du SNES. Donc il a été pionnier dans la réflexion sur le curriculum infodocumentaire. D'autre part, les professeurs documentalistes sont devenus des intervenants incontournables dans la formation des élèves. Là, je pense notamment aux écrits de Muriel Frisch et François Chapon, qui ne sont plus dans la salle, mais qui, je pense, ne me démentiraient pas. Les professeurs documentalistes interviennent notamment sur les différentes étapes de la recherche d'informations, qui reste quand même le cœur de leur compétences, et en particulier dans la phase d'expression du besoin d'information. Donc ça, c'est ce qu'a montré l'enquête de la FADBEL menée en 2003, et que mon enquête auprès des professionnels a également confirmé. Donc d'après mon enquête, ils organisent prioritairement des séances sur trois compétences qui correspondent en fait aux premières étapes de la recherche, à savoir cerner le sujet, chercher les sources d'information et sélectionner les documents. Voilà, pourquoi ? Parce qu'ils estiment que les élèves sont en difficulté là-dessus. Et puis, deuxième explication peut-être, parce que tout ce qui relève des étapes, on va dire, pour faire schématique, ultérieures, à savoir le prélèvement, le traitement, la sélection et l'évaluation d'informations, c'est peut-être un petit peu le ventre mou de notre action pédagogique, peut-être parce qu'on manque aussi d'outils pour cela. Et on va voir peut-être que le travail justement de Noël permet d'être outillé davantage. Quels sont les outils qui existent pour cette formation à l'expression du besoin d'information ? Je vous ai listé quelques techniques existantes que ont très bien référencé Vincent Liquette et Yolande Moury dans leur ouvrage sur le travail autonome en 2007. Si on en revient à l'enquête que je citais tout à l'heure réalisée en 2013, on s'aperçoit le questionnement qu'Attila et celui qui est le plus utilisé. En deuxième position arrivent les utilisations d'usuels et enfin l'utilisation du thésaurus. Mon enquête confirme tout à fait ces données et à savoir quand même que ces techniques sont rarement abordées de façon isolée. Alors je vais faire un focus sur trois techniques, l'utilisation du 3QOCP, des cartes mentales et du thésaurus. Donc je vais commencer par le 3QOCP. D'après mon enquête, 86% des professeurs documentalistes la jugent efficace. Pourtant, hein, comme le montre la citation de Frédéric Rabat, c'est une technique qui n'est pas exempte de critiques. Frédéric Rabat souligne bien que ce questionnaire met souvent les élèves face à l'ampleur de leur méconnaissance. Je citerai un autre auteur, Gabriel Di Lorenzo, professeur documentaliste en lycée, qui dans les années 85-90 a mis au point une technique de mobilisation des idées qui se voulait une amélioration, un approfondissement du 3QOCP qu'elle avait considéré comme inopérant, avec un écueil qui est celui de se poser des questions pour éviter de s'en poser finalement en cherchant dès cette étape la bonne réponse, la réponse attendue. Mon observation a confirmé ces écueils. Donc, premier écueil, le risque d'enfermement dans le questionnement, comme l'a souligné Frédéric Rabat. La tendance à vouloir formuler des réponses dès cette étape. Donc là, je rejoins Di Lorenzo. Et par ailleurs, j'ai pu constater que c'est une méthode qui n'est pas toujours opérante pour faire émerger des mots-clés et permettre leur réinvestissement dans la requête, puisque les idées sont exprimées en langage naturel avec des propositions, des locutions, des citations, des paragraphes rédigés. Et dernier point, le lien n'est pas toujours fait entre le fait d'avoir trouvé des mots-clés, pour ceux qui ont réussi à en trouver, et la saisie d'une requête dans le logiciel documentaire. Alors je passe à un deuxième outil, les concepts et MindMap, qui sont considérés comme des outils efficaces sur le plan cognitif dès la primaire, d'après la majorité des études et des expérimentations. Alors, là vous avez à gauche une mind map et à droite une carte conceptuelle ou concept map. On constate qu'il y a de fortes convergences, en particulier entre la concept map qui est là et les thésaurus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une représentation hiérarchique des concepts avec des relations entre les termes. Et ce rapprochement est encore plus net depuis qu'on peut afficher sur écran les thésaurus sous forme graphique. Mais il reste quand même une différence importante, c'est que ces cartes conceptuelles et ces cartes mentales représentent des connaissances individuelles, mouvantes et sans contrôle de vocabulaire, donc avec des mots moins précis, moins techniques, des problèmes d'équivocité de la langue qui ne sont pas résolus. Et donc il manque toujours un intermédiaire entre l'utilisateur qui formule la recherche et les banques de données qui sont indexées par un professionnel de l'information. Donc, comment améliorer cette interaction ? C'est là peut-être que le thésaurus peut rentrer en jeu. Alors, le thésaurus présente deux intérêts, d'après les auteurs. Donc, un intérêt pédagogique, avec les graphes conceptuels qui ont une valeur heuristique. Donc là, je citerai Annette Begin dans un article d'InterCEDIC 99 qui l'a bien montré, et qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du domaine. Donc là, vous avez une copie d'écran de Mobis 2014, dans lequel on voit l'environnement sémantique du descripteur Liberté de penser. Donc, on peut afficher toutes les relations d'un descripteur et naviguer entre les termes via les liens hypertextes. Donc, Bruno Menon, par exemple, considère que c'est une présentation, un des rares exemples de présentation graphique réussie. Deuxième intérêt du thésaurus, c'est qu'il permet d'accroître la flexibilité lexicale. Et donc, je citerai là-dessus Marie-Françoise Blanquet ou Pascal Duplessis qui ont écrit là-dessus. Voilà, donc au total, le thésaurus peut être considéré comme un outil d'acquisition de vocabulaire et d'activation de la pensée. Donc, dans mon observation, j'ai essayé justement de vérifier s'il y avait vraiment un intérêt à manipuler les thésaurus, à ce que ça apportait une réelle plus-value dans les situations de recherche d'informations. Résultat. Je constate qu'il y a deux atouts au thésaurus. Donc l'exploration des environnements sémantiques grâce à l'affichage graphique qui permet de mieux saisir les liens entre les termes, et l'enrichissement du lexique, mais aussi des limites, donc une représentation graphique qui n'est pas toujours assez engageante si on la compare aux cartes mentales qui sont plus simples, plus attractives avec l'utilisation de couleurs, de symboles. Et deuxième inconvénient, le risque de dérive sémantique où les élèves parfois ont tendance à se noyer, ils perdent de vue le but de leur activité. Je citerai l'exemple de Robin qui travaillait sur les métiers de l'industrie du luxe et qui s'est retrouvé à consulter le résultat associé au descripteur protection des animaux. Donc on est quand même assez loin du sujet de départ. Deuxième intérêt et limite du thésaurus, dans la phase cette fois-ci de construction des requêtes, l'atout, c'est que c'est un outil qui contraint donc à utiliser un vocabulaire normalisé, et donc il y a un gain en temps et en efficacité qui est indéniable, donc il y a vraiment le rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur et le SRI qui joue à plein. Mais aussi des limites, donc les problèmes de correspondance entre langage naturel et langage documentaire, avec un nombre insuffisant de renvois entre employé pour et employé, le risque de dérive sémantique, je l'ai déjà dit, et la maîtrise insuffisante de l'interrogation par l'interface, puisqu'il y a des élèves qui interrogent le thésaurus en saisissant l'intitulé exact de leur sujet avec l'article, ce qui les renvoie au premier terme de l'index. Je vois qu'il y en a qui ont déjà vécu ce genre de situation. En conclusion, on peut quand même constater que la technique du 3QOCP qui est envisagée comme très efficace par les collègues, finalement, n'est pas si facile que ça à utiliser par les élèves. Alors que le thésaurus, lui, qui est envisagé comme un outil réservé aux experts, ne serait peut-être pas si difficile que ça. C'est ce que confirment les observations et les entretiens. En fait, ce qui semble déterminant, c'est le nombre d'heures consacrées à la formation, comme le montre le graphique que vous voyez. En fait, ce graphique montre que plus les séances ont été longues, plus les professeurs documentalistes les ont évaluées comme utiles aux élèves. Donc, voilà, c'est peut-être un outil à ne pas réserver aux chercheurs experts, mais un outil qui peut aider à l'expression du besoin d'information, même chez les jeunes chercheurs, à condition toutefois d'avoir le temps de formation nécessaire. Je passe la parole à Noël.
Alors, moi, je vais enchaîner sur, justement, pour étayer ce que c'est que maintenant le document de collecte en situation. Comment on l'a expérimenté dans les établissements à la lumière de ce qui a été publié sur le terrain, c'est-à-dire c'est une entrée pragmatique, hein, et pas du tout éclairée par les recherches didactiques. C'est une appropriation, donc, en se disant que finalement partir des pratiques de collègues et d'élèves comme les Robert et Nicole Loupé semblait intéressant pour les faire réfléchir sur comment ça fonctionne d'une part, et puis comment être peut-être aussi plus averti de leur besoin d'information, c'est-à-dire faire évoluer ce besoin d'information de l'état initial. Vous rappelez le schéma de la PC, il y a quelque chose qui va s'informer au fur et à mesure de la collecte du document. Donc, deux exemples, on a fait le second. Cette approche réflexive, ce début, hein, modestement, j'ai pas énormément de résultats. Et puis aussi, une approche de portfolio d'apprentissage en TDE. Alors, je préciserai aussi qu'est-ce que c'est que le portfolio d'apprentissage par rapport à d'autres types de portfolio. Donc, cette collecte, eh bien, elle peut se passer sur tout type de support, papier, traitement de texte. Et là, pour l'occurrence, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Padlet. Pourquoi ? Parce que Padlet est très visuel. Il permet d'embarquer des images, des vidéos, du son. Enfin, c'est un mur sur lequel on peut émerger du contenu. Et là, je vous montre un exemple. Les élèves ont travaillé sur le dessin de presse. Et pendant deux séances, chaque élève a réalisé un dessin de presse. Et prenez des notes, commentez dans un très bon texte. Ensuite, on a mutualisé les productions sur un mur. Donc, il y a eu plusieurs états. Il y a eu la première prise de notes, et puis une synthèse de la prise de notes publiée sur le mur, consigne 5-6 lignes en indiquant la source, et puis aussi le dessin qui est numérisé par le smartphone, parce que voyez-vous, sur le site du quotidien, on trouve le dessin décontextualisé. Et comme il ne signifie rien sans un contexte, il fallait reconstruire le contexte avec tout simplement le smartphone comme outil de prise de notes. Voilà. Donc, favoriser la prise de notes sous toutes ses modalités, papier, le dispositif, le crayon, le traitement de texte, le smartphone. Et donc, on peut aboutir à ce type de production, donc réhabiliter l'art du brouillon, entre guillemets. Et alors maintenant, peut-être en un peu seconde, un parcours plus didactisé, où là, je leur part d'une sélection de sources qui est la première page de résultat du moteur Google sur les mots-clés classicistes et bien sûr, comme consigne de trouver deux définitions, les thèmes traités par la peinture, de référencer ces définitions, indiquer un lien vers le site d'où provient l'information et d'illustrer chaque thème. Donc là, j'ai reconstruit un travail des lettres pour dire qu'on a observé des erreurs, mais qu'on accepte. Je vais dire la manifeste comme élève d'affaires, mais c'était embarqué la photo de Clint Eastwood, puisque beaucoup d'élèves vont directement sur Google Page, il n'y a pas de consigne, donc dans la collègue, ils sont libres de prévu, sauf que on a quand même un point de départ, c'est la première page de Google, ce qui permet ensuite d'interroger sur des objets qui sont complexes, que j'ai identifiés au préalable, notamment les fichiers PDF qui circulent, où ils sont difficiles à identifier au niveau de la source. Donc là, ça devient une sorte de situation problème. Les élèves doivent remonter à cet objet-là pour aboutir au site d'un professeur qui indique ses sources. Et là, on voit après tout un travail sur la généalogie des documents, sur la notion de source, à partir des sources qui ont servi au professeur pour construire son propre document. Et on constate qu'il y a le Louvre dans les sources du professeur. Donc déjà, ça n'est pas dans la première page de Google, première interrogation. Pourquoi Google ne cite pas le Louvre alors qu'on a le site d'un professeur de Guyane en troisième position sur 280 000 résultats. Voilà. Et on a également des objets intéressants comme le site Histoire de l'art qui est pratiquement au même niveau de popularité Wikipédia. Alors qu'en creusant, c'est un site anonyme, mais référencé en cherchant bien par le site RGW, renseignement généraux du web, qui lui donne un indice de confiance bon, bien que l'éditeur soit inconnu, et la professeure de lettres aussi, qui le cite dans ses sources. Donc voilà, le document de collecte nous a permis d'organiser une collecte, et de revenir sur cette collecte pour questionner, construire une notion de source, et critiquer aussi le moteur au passage, qui n'inclut pas ce qui pourrait être attendu comme type de source. Et on a questionné aussi la difficulté à remonter à la source à travers le cas du PDF, c'est électron libre, hein, dû à cette atomisation des contenus. Mais c'est le monde dans lequel nous des élèves. Et puis aussi ces images qu'on trouve sur Google Images. Et là aussi ce travail, est-ce que c'est vraiment des images qui illustrent bien un tel? Est-ce que c'est pas plutôt néo-réaliste que réaliste? Donc, c'est un travail qui est possible dans ce contexte du document de collègue. Mais alors, je dirais que l'avantage de ceci, c'est qu'on peut, en fin d'activité, faire construire aux élèves, revenir et essayer de structurer à la stratégie, donner corps, et puis aussi qu'est-ce que c'est que les types de sources à rechercher en histoire de l'art. Donc, c'est une espèce de boussole. Je pense à un article d'Agnès Montaigne sur passer les clés du livre au savoir naviguer sur le web, parce qu'il n'y a pas des analogies, justement, à inventer les cartes trouvées. Donc, je reprends cette question que tu. La carte mentale comme quelque chose qui peut être l'objectivation de ces stratégies qu'on essaie de faire acquérir. Donc ce besoin d'information qui est venu. Voilà pour la paix. Ça reste encore embryonnaire, mais vous voyez qu'il y a plusieurs étapes d'écrit intermédiaire. Il y a le matériel et puis on va aussi vers une carte mentale. Donc c'est une succession de brouillons finalement. L'essentiel c'est que les élèves s'approprient cette démarche de brouillon et que ce sont des brouillons structurants. En TPE, on est parti du constat que nos fiches méthodologiques donnaient des résultats et que les jurys. Finalement, les sitographies, c'est la liste du RL ou des références bibliographiques, mais souvent produites par commande, hein, pas vraiment, qui a servi à construire l'argumentation. Donc, c'est comment, dans une démarche prescrite, organisée et encadrée. Là aussi, un outil du web, pourquoi proche du naviguer, qui se passe toujours sur l'interface du navigateur. Je navigue, j'ai pas, je peux qualifier un document. L'usage de l'outil Scoop-It après réflexion, on a d'abord utilisé un tableau dans Word, des outils collaboratifs, c'était très lourd à gérer. Un contrat de lecture, donc c'est prescrit, il y a des critères d'évaluation qui sont négociés en séance en amont des deux. On fait évaluer aux élèves des sites qui ont été épinglés ou et plutôt choisis l'année précédente. Les élèves doivent construire cette grille aussi. Alors, elle n'est pas prescrite sans une négociation avec les élèves. Ils ont eux-mêmes établi qu'il fallait des sites plutôt d'autorité scientifique. Dans un TPE, que ça correspond à ce niveau de fiabilité de l'information. Ce n'est pas vraiment un site de TPE lycéen. Donc il y a une construction de négociation des critères. Et donc, pour arriver au cours de la collecte, parce qu'il y a un regard sur une qualification des sources, et notamment en quoi est-elle pertinente pour ma recherche, même si elle fait autorité et si elle est d'actualité. Donc l'outil nous permet, dans une démarche de type portfolio que j'ai reprise assez grandes machines que sont les machines à certifier dans le site de Cybersecurity, mais avec le sein du outil simple, on peut récupérer toutes les adresses des productions d'élèves et puis voir, avoir un suivi à distance et aussi aller dialoguer. Parce que le simple suivi technologique ne donne rien, il faut faire émerger chez les élèves toujours des situations problèmes, faire émerger pourquoi on n'est pas forcément d'accord avec leur choix et les amener à se demander de quel type de discours j'ai besoin. Je fais aussi référence à un article de Frédéric Herbac à cité la CILIA, donc il y a beaucoup de ponts entre nos travaux. C'est que sans cette prise de conscience de l'élève du but, donc du besoin d'information, informé de la stratégie, la démarche coupée ne sert à rien. On peut mettre tous les documents de connaître que l'on veut, s'il n'y a pas émergence de ça, de quel type d'argument je recherche, il n'y a pas de consensus, les élèves restent dans leur pratique. Bon, là, c'est une pratique scolaire qu'on peut encore nous imposer. Donc, il faut vraiment qu'ils construisent leur carte, leur boussole de navigation et qu'ils doivent gérer leurs besoins d'information. Il faut que je fasse un petit peu. Donc, dans le suivi du processus de collecte, l'importance du dialogue, hein, de vraiment de la présence, l'accompagnement, démarche portfolio d'apprentissage, qui est vraiment celui que l'on réalise en cours d'activité, l'importance des brouillons des écrits réflexifs, comme quoi le document de collecte n'a d'intérêt que s'il est dans didactique et s'il est dans cette révélateur des pratiques des élèves, révélateur pour que les formateurs puissent dialoguer, accompagner. Bilan, ben voilà, ça nous permet de légitimer un parcours AP seconde, TPE, et puis aussi aller vers la formation à la BEC en BTS. Donc, importance des études intermédiaires. Et puis finalement, dans la BEC, on retrouve cette nécessité pour un veilleur de définir son cahier des charges, son sourcing, dans une proximité avec peut-être la didactique professionnelle, dans cette démarche de prise de conscience de l'activité que permettent les études réflexives.
Avant de passer à la conclusion, les diapos ont disparu, mais je vais le dire rapidement à l'oral, sur la progression des apprentissages, puisque c'était notre dernière partie. Donc, par rapport à la question donc, de la place du thésaurus, donc, j'ai vu que seulement 20% des collègues formés à cette utilisation. Alors, pourquoi ? Plusieurs freins, les lacunes de la formation, puisque c'est un outil qui est envisagé du point de vue de l'indexation, mais pas de la recherche, le manque d'heures consacrées, les choix donc, des éditeurs qui passent d'une logique d'apprentissage à une logique d'usage et les insuffisances des outils que j'ai identifiés. Bon, malgré tout, on a vu qu'il pouvait y avoir un intérêt du point de vue pédagogique à former à et par le thésaurus. Hein, je reprends l'expression d'Annette Béguin. Alors, à condition que ce soit des formations non limitées à des séances ponctuelles, donc quel point d'appui pour construire une progression ? Il faut savoir qu'actuellement, dans les programmes de français, dès la sixième, sont abordés, normalement, les concepts qui font le fonctionnement d'un thésaurus, avec les notions de polysémie, synonymie, termes génériques, termes spécifiques. Les nouveaux programmes le prévoient aussi. D'autre part, nous avons les référentiels infodocumentaires, qui, dès 1999, avec les travaux de Rouen, et jusqu'en 2010, avec le Pacifi, envisagent cet outil... à côté d'autres outils et méthodes, voilà. Et si on se place du point de vue des pratiques donc des professeurs documentalistes, on se rend compte qu'il y a une utilisation qui est plus fréquente en sixième, mais je pense là essentiellement pour des questions pratiques, puisque c'est souvent le niveau sur lequel on peut intervenir en IRD. Après, est-ce que ça se justifie d'un point de vue didactique d'aborder une notion aussi complexe dès ce niveau ? On peut se poser la question. Et puis, ça revient de façon un petit peu plus importante en troisième, et surtout au lycée, en seconde et en première. Et enfin, je rejoins aussi les pistes données par la FADBEN dans le document publié là, tout récemment, qui préconise de considérer le mot-clé dans une démarche notamment conceptuelle, en préparant l'interrogation de banque de données par l'analyse du sujet, le travail sur le lexique, l'appui sur le thésaurus. Voilà, donc... Au final, je pense que mon étude a remis en évidence cet intérêt des thésaurus et plus largement de l'indexation, qui est une notion pas si ringarde, comme l'a dit tout à l'heure Olivier Ledeuf. Et d'autre part, quelque chose qui m'a paru intéressant, c'est le fait d'avoir mis en évidence ce gaspillage des compétences professionnelles entre les tâches d'indexation qui continuent à être faites avec cet outil sans qu'il y ait le bénéfice pour les élèves du fait d'un manque de formation. Et voilà, prolongement à envisager pour cette étude, donc mener des observations sur notre terrain, le lycée, des établissements difficiles, et s'intéresser à tous les acteurs engagés dans cette question-là. Voilà, donc là je lance un appel aux éventuels étudiants intéressés par un tel projet, sachant que moi-même je ne m'engagerai pas dans une thèse sur ce sujet.
Donc j'ai une critique du document de collègue que j'esquisse pour dire que ce n'est pas une méthode. Bon, on peut trouver le site d'Upronaut, lequel je vais souvent. Il y a des vulgarises, hein, mais je pense que ce concept de document de collègue est très complexe. Ce n'est pas une méthode pour les nuls, entre guillemets, d'une nouvelle recherche documentaire, et ce n'est pas non plus quelque chose qui doit exclure, qui se fait, parce qu'au contraire, c'est à remettre dans une généalogie des supports, du travail intellectuel. C'est au cœur, et pour moi, ça renvoie vraiment à tout ce que nos savoir-faire, puis notre héritage de la pédagogie documentaire. Donc, il y a des conditions pour que ça puisse fonctionner, qu'on ait réfléchi. Je crois qu'il y a un travail à faire sur la didactisation de ce que c'est que l'index-indexation, ce que l'on a déjà fait. Donc, une reprise de tout ce travail qui est fait d'ailleurs dans les pistes pédagogiques de la FAPEL, qui l'a fait suite à l'enquête sur diagnostic des connaissances, informations, documentation des élèves du secondaire en France, et publié cette année. Et donc, dans les pistes pédagogiques, il y a quelque chose de très intéressant sur la notion d'index et d'indexation. Et en lien avec le travail de la recherche aussi, qui j'adresse sur qu'est-ce que c'est que les architectes, parce que ces machines à prendre des notes, que ce soit le brouillon, le papier, que ce soit Padlet, outil un peu collaboratif, que ce soit Scoopy, ça contient des opérations d'écriture qui sont prescrites. Et on doit réfléchir aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que écrire, annoter, lire. Il y a vraiment toute une dimension pour nous de la technologie de travail intellectuel. Donc, de mettre les mains dans ce conduit avec des chercheurs. Donc, c'est un chantier qui s'ouvre certainement, puisqu'on peut les regarder du point de vue. Qu'est-ce que ça permet autour de la notation, de la citation notamment, et puis l'indexation par mots-clés, puisque c'est un chantier aussi, peut-être, ainsi des pratiques de thésaurus, former les élèves à l'indexation par mots-clés naturels ou par tag. Il y a plein de pistes pédagogiques très intéressantes. Ce sont aussi des sommets transitératifs, c'est-à-dire Padlet, on peut l'interroger du point de vue comment ça fonctionne, le Scoopy, cette plateforme, comment elle fonctionne. En BTS cette année, on va essayer de faire indexer chaque ressource aux élèves, pour leur produire des répertoires de mots-clés, et donc on permet de la circulation. Donc, là, on enclenche un lien avec la veille aussi, alors diffuser. On voit tous ces objets, pour moi, c'est des objets problèmes à approfondir du côté des didactiques, hein, didactique des lettres et des langues, qui déjà on parlait des notions de portfolio, d'écrit intermédiaire, didactique un peu documentaire, à travers l'exemple de la notion d'indexation. Voilà pour le travail. Enfin, le travail qui était mené, sinon finalement je ne prends pas plus de questions à partager avec vous, bien sûr, et de liens aussi, je pense, avec tout ce qu'a pu apporter Vassilia sur l'idée que le besoin d'information aujourd'hui c'est quelque chose de clé, et ça se décline peut-être différemment dans l'espace du catalogue et de la recherche en ligne, mais il y a des ponts avec l'idée des cartes conceptuelles, des cartes mentales. Voilà.
Merci. Et je réalise que je ne m'autorise pas à utiliser Thésaurus comme outil intellectuel d'apprentissage et que je fais de l'initiation à la recherche sur Unicidoc. Est-ce que pour autant, alors à la lumière de ce que vous venez de nous faire, en tout cas de nous faire remarquer à moi, est-ce que finalement on pourrait se passer d'abonnement Unicidoc, garder des CDI, est-ce que la dimension en ligne, c'est-à-dire la possibilité pour les élèves, éventuellement, toujours rêver, de consulter le catalogue depuis chez eux, ça me paraît une question importante et pédagogiquement, éventuellement, utile aux apprentissages. Parce que ça grève, sur certains budgets, ça, c'est très. C'est un poids du budget important dans les CDI, l'abonnement.
Voilà. Date maintenant de 2013, qui n'aurait pas activé le portail Unicidoc. Alors parmi ses collègues, certains ne l'ont pas fait par choix du fait de la disparition du Thésaurus. Alors je sais que pour en avoir parlé dans le cadre d'une formation au PAF avec le collègue formateur qui se présentait dans Unicidoc, j'ai posé ce problème de la disparition du Thésaurus, et elle m'a dit, bah, écoute, nous ce qu'on a fait avec ton lycée, c'est qu'on passe par la version en ligne de Mobis, par l'interface en ligne. On apprend aux élèves à l'interroger et ils se servent de ce qu'ils ont trouvé lors de cette exploration-là pour le réinvestir dans leur requête sur ICIDOC. Voilà. Donc, il y a des moyens aussi de contournement de ce type-là qui sont utilisés par les collègues.
J'ai une question pour deux grands collègues. Je voudrais juste savoir si les élèves qui ont expérimenté des choses en groupe le réinvestissent en première à l'heure du questionnement qui me taraude depuis la fin.
Oui, c'est une question importante. Il y a eu des résultats de la phase seconde. On n'a pour l'instant pas une évaluation systématique sous forme de la manière de l'armée bacillaire. Il y a une enquête à faire. On considère que dans notre parcours en seconde, c'est le modèle aussi qu'avait préconisé Frédéric Rabat, lorsqu'ils arrivent à évaluer correctement une référence en ligne, hein, nommer la source, on est déjà, c'est déjà quelque chose qui est acquis, qui est intéressant. Ça veut dire qu'ils ont compris un nombre d'opérations, remonter la page diagnostique, prélever les indices qui permettent d'identifier les mentions légales et différentes rubriques. Et donc ils sont sortis de l'automatisme. Ça, déjà pour nous, les sortir de cet automatisme, c'était quelque chose de très important et pas évident. Parce que dès qu'ils viennent du collège, souvent sont immergés dans ce bain médiatique, ces pratiques naturelles presque, ou bien naturalisées. Par contre, cette opération de les sortir de ça, oui, ça fonctionne. L'évaluation de la qualité des sources, un autre niveau d'autorité, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille au niveau première. Et je pense que l'évaluation en fin de TPE, par compétence, on a dû utiliser le Bélosi, l'artifice dont parlait Pascal Duplessis, c'est le site le Pacifique, pour négocier notre place en évaluation. Par contre, en termes d'évaluation de compétences, sur l'ensemble des séries A, ce qui fait 5 classes et à peu près 250-200 élèves, on arrive à 1,7 sur 2. Parce qu'on a 2 points sur 8 pour la. Donc, il y a des résultats. Il a fallu accompagner, ça veut dire que c'est un engagement de longue haleine, ce qui est régulier. Par contre, le qui reste problématique, et je voudrais explorer, c'est la construction des sources, des cartes comptables pour définir son besoin d'information mieux et piloter. C'est-à-dire que les élèves puissent retourner vers l'OPAC, vers le catalogue CDI, vers le catalogue de bibliothèque municipale, armé de ces cartes mentales, c'est-à-dire de mots-clés, puis aussi le type de ressources, le type de discours à chercher. Ça, c'est une hypothèse de travail que l'on pose, que cette démarche de sourcing, en veille, on peut aussi la transposer progressivement depuis l'histoire des arts en seconde ou d'autres contextes. En CPE, c'est amener les élèves à privilégier cette partie de source, reconstruire leur ressource, pour que ces cartes-là les ramène vers les différents espaces informationnels. C'est vraiment tout l'enjeu des mots-clés que l'on trouve, que l'on cherche, et de retourner vers une panoplie, de relier les espaces nationaux à travers cette démarche-là.
La question que vous posez sur le thésaurus, elle est liée à l'éthique, et du coup, pour moi, en vous écoutant, ça rebondissait sur la conférence d'Olivier Leboeuf, parce que c'est la question de l'algorithme. L'algorithme qui fonctionne pour BCDI n'est pas du tout celui qui va être mis en place. Les algorithmes que je ne connais pas, que je ne vais pas exposer, ne sont pas les mêmes pour un moteur de recherche comme ICIDOC. Et donc, en l'occurrence, on a un outil de recherche qui va fédérer plusieurs bases de données. Et forcément, à partir de là, un thésaurus comme Mobis ne peut pas exister tout seul derrière l'algorithme. Et puis, par ailleurs, interroger uniquement son indexation, alors en l'occurrence, si on la fait mal, si on ne fait plus d'analyse documentaire, on fausse complètement les résultats. Elle doit être d'autant plus élaborée, cette indexation, qu'elle ne se voit pas. Donc, il y a aussi toute une réflexion sur la transparence. Quand même longtemps qu'on s'interroge sur tout ce qu'on ne voit pas, parce que les élèves ne voient pas. En tout cas, ça peut être une question. Et après, vouloir former les élèves à un questionnement via un thésaurus, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette démarche où on veut faire passer l'élève par là où nous on est passé. C'est-à-dire, pour retrouver le document, il faut faire en arrière le chemin que l'indexeur, celui qui a fait l'analyse documentaire, a déjà fait. Est-ce que ce chemin-là, il n'a pas évolué?
Moi, ce qui m'a surpris dans mon enquête, c'est de m'apercevoir que l'indexation par tag restait extrêmement marginale, je crois que c'était moins de 5%, alors qu'on aurait pu penser que voilà, cette notion de floxonomie, etc., correspondait, était peut-être en train de monter. Donc finalement, non, les collègues restent dans des pratiques traditionnelles de documentation, avec la petite nuance que ça a tendance a quand même régressé chez les collèges les plus jeunes et les plus débutantes. Et ce qui m'a aussi interpellée, c'est que j'ai croisé avec les disciplines d'origine des collègues interrogés et les collègues qui viennent de sciences de l'information, curieusement, ont tendance à penser que le thésaurus est un outil relativement has-been, on va dire. Voilà, ce qui m'interroge quand même sur la place de la documentation au sein de ces filières. Et ce sont les collègues qui venaient qui avaient une formation en particulier de langue, qui venaient des filières de langue, qui étaient le plus sensibles à l'intérêt que pouvait représenter cet outil-là.
Finalement, le thésaurus en soi, quand on est sur le thésaurus, comme sur une carte mentale, sur peut-être le document de collecte, ou pourquoi pas sur une encyclopédie, ou qu'est-ce qu'il n'y a pas encore Pardon ? Oui, toutes ces choses-là, elles ont en commun une visualisation et des liens. On voit plus facilement les liens entre des choses et ça peut faciliter peut-être la construction de la pensée, du savoir, que ce soit un petit peu moins éparpillé. Alors après, ce qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on va le travailler. Mais, peut-être que le thésaurus, c'est un moyen parmi d'autres. J'en oublie un, je ne sais plus lequel.
Oui, en fait, voilà, c'est exactement la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que c'est un outil parmi d'autres, mais qu'il a des intérêts particuliers, qui donc mérite peut-être à ce titre-là d'être un petit peu revalorisé. Et pour ce qui est des liens, effectivement, la présentation graphique, pardon, permet de visualiser ces liens. Après, le statut des liens, c'est quelque chose, voilà, la relation générique, spécifique, associée. C'est quelque chose d'équivalent, c'est quelque chose de plus difficile à percevoir et qui nécessite un apprentissage.
Oui, alors moi je vais interroger les collègues. Est-ce que tu as pensé des collègues qui ont associé un autre outil tombé en désuétude à travail sur le thésaurus, à savoir et coupler le travail sur le dictionnaire des synonymes. Parce qu'en fait, ce qui bloque, c'est sur certaines familles de mots, ils ont des expressions qui, pour éviter la polysémie, peuvent dérouter les usagers, parce qu'elles sont des fois surprenantes. Et je pense à ça, parce que tu as réveillé un vieux souvenir, on avait deux collègues sur l'Académie de Nantes qui ont travaillé à l'époque de la mise en place des IDD, exactement comme dans la dynamique que tu proposes, à savoir, elles avaient proposé de lancer un IDD en travaillant à partir du thésaurus. C'était Annie Ducré, donc, qui était à Chalons, et puis une collègue de Nantes à qui a succédé justement Angèle Stadler sur son poste quand elle est partie à Nantes. Et j'oublie son nom. Et vraiment, l'expérience était intéressante dans la mesure où ça ouvrait des pistes. Elles avaient proposé des stages sur Nantes, mais ces stages ont disparu. Et avec la disparition de cette dynamique, elle a disparu d'usage aussi. Enfin, elles avaient commencé à lancer vraiment un truc dynamique, c'était en 2001. Et c'est parti. Tu vois, c'est complètement passé à la trappe. Mais aussi parce que les usages et les outils ont évolué. Et du coup, je pense que coupler le thésaurus à l'utilisation d'un dictionnaire de synonymes, ça pourrait ouvrir d'autres pistes en revenant sur des outils plus pérennes.
Alors, voilà, j'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que les différentes enquêtes, que ce soit celle de la FED, a mis en évidence le fait que une technique est rarement abordée de façon isolée, à l'exclusion des autres. Je crois que ça. C'est seulement 12% à peu près qui n'utilisent qu'une seule technique à l'exclusion des autres. Effectivement, il y a souvent un couplage. Donc, dans les prolongements à envisager pour cette étude, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais justement, j'envisageais le fait de rencontrer des collègues qui ont mis en place des formations d'une certaine ampleur pour voir un petit peu les résultats qu'ont pu donner ces formations-là. Et puis, tu parlais de collègues qui ont fait ça un certain nombre d'années, et ça me fait penser à une collègue qui a déclaré dans les questions ouvertes, bientôt, seuls les vieux documentalistes, nous les dinosaures, serons ce que sont les thésaurus. C'est peut-être pour le côté moins optimiste des choses.